C'est 23.
Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget.
Et bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech, la balado techno muy excelente. Je sais que c'est pas ça en espagnol, mais il fallait que ça rime, et ça c'est important. Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Salut Pascal.
Bonjour Alain, ton talent pour les langues m'émerveille toujours. T'as pas encore parlé de météo?
Je suis une IA générative qui n'est juste pas une I ni une A, en fait. Je ne fais que générer du texte comme ça, de façon aléatoire.
Humaine,
t'es pas dans la langue de votre choix, exactement.
C'est ça. Nos partenaires pour 2024, pour le podcast, merci de nous garder en vie, de nous faire manger, de nous permettre de vous partager notre enthousiasme pour tout ce qui est technologie techno. TELUS, Plan Hub, Hello Darwin, on accueille aussi Planet Oster qui est avec nous depuis peu. L'épisode d'une tasse de tech est présenté par Hello Darwin. En plus d'être le Tinder pour trouver des fournisseurs pour les entreprises, Hello Darwin se spécialise dans l'obtention de subventions dans la transformation numérique de votre entreprise. Toutes les entreprises devraient se transformer numériquement. Hello Darwin est là pour vous aider. Si vous avez besoin d'aide financière pour vos projets de développement numérique et qui n'en a pas besoin, Hello Darwin va vous aider à trouver les subventions auxquelles vous avez droit au Québec, au Canada. Et si vous leur faites la demande, peut-être même dans le monde, qui sait, je ne sais pas. Ils vont travailler avec vous pour les obtenir facilement pour avoir le soutien et les partenaires nécessaires. N'oubliez pas que c'est le Tinder des fournisseurs et des partenaires. N'hésitez pas à aller sur hellodarwin.com pour en savoir plus.
Oui, et si vous êtes un peu plus avancé dans ce projet-là, on a aussi pour quelques épisodes un nouveau partenaire, Jovaco, avec qui on va parler tout à l'heure. On reçoit la grande patronne de Jovaco pour parler de bien des choses, mais entre autres choses, de la place des femmes dans le monde des technos, parce qu'on le sait, là, c'est le 8 mars qu'a lieu la Journée internationale du droit des femmes. Il faut le souligner, à chaque année, c'est important de revenir là-dessus. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans le secteur technologique pour trouver cette égalité entre les hommes et les femmes. Ce qui est le fun, dans la mesure où c'est positif, c'est que le Québec est en avance sur bien d'autres industries, bien d'autres marchés dans le monde, dans les technologies aussi. Et on va pouvoir en parler tout à l'heure avec...
Valérie Coutu, excuse-moi,
j'ai tenté de trouver dans Google Docs pour trouver d'autres choses, mais effectivement...
Ben non, je te comprends, puis elle va nous donner des trucs pour attirer des gens, des femmes entre autres, mais des gens de la diversité, des gens pour augmenter le bassin d'employés, puis avoir une meilleure force de travail pour mieux travailler dans le numérique. Je trouve ça super intéressant, les pistes qu'elles vont nous donner.
On a fait tout à l'heure en deux temps, parce que Jovaco est en soi une entreprise TI qui fournit des outils de rétention, entre autres, et de marketing aux entreprises qui veulent faire le virage numérique, bien sûr. C'est ce que j'ai dit. Gros show hein, cette semaine. On a plusieurs trucs au programme. Je vais commencer par vous dire qu'on va en parler tout à l'heure, parce qu'il vient d'être présenté, le nouveau MacBook Air à processeur M3. Est-ce que ça change la game?
Oui, qui est probablement compatible avec un routeur Wi-Fi 7.
Presque, parce qu'il y a Wi-Fi 6E, mais pas 7 encore. Je ne sais pas exactement à quel point ça fait une différence.
Voilà, ça fait, je pense, une différence. On va parler de la fin des photos sans yeux rouges, la fin des photos avec des yeux rouges plutôt, comment obtenir des meilleurs résultats dans Google, comment on magazine grâce à l'intelligence artificielle dans Amazon. Et évidemment, on reçoit Valérie Coutu, qui est présidente de Jovaco, dans quelques secondes. On a bien hâte.
On va faire ça dans un instant. Mais avant, Pascal, comme le veut la nouvelle tradition amorcée avec l'année 2024 à une tasse de tech, comment ça, avec nos espressos de technologie, ces courtes actus qui ont accroché l'œil dans les derniers jours? Celle-là, je t'avoue, j'ai hâte de voir, parce que c'est assez niché, mais ça pourrait peut-être donner quelque chose de le fun au niveau grand public, parce que la marque Red, on le sait, est extrêmement connue des professionnels de l'image, est très prisée des amateurs de qualité dans l'image numérique. Et là, Nikon vient de mettre la main là-dessus. Je ne sais pas ce que ça va donner concrètement, en fait.
Ben, moi, j'espère que ça va amener des développements, parce qu'on s'entend que les caméras numériques, on en avait parlé d'ailleurs avec quelqu'un de Nikon il y a quelque temps, comment c'est en transition. Les gens prennent les photos de tous les jours avec leur téléphone maintenant, la qualité est rendue tellement élevée, mais il y a peut-être une réinvention à faire du côté des appareils photos spécifiques pour la vidéo et tout. RED, c'est une compagnie qui fait des caméras compactes qui donnent des images de qualité cinéma. On peut filmer avec, entre autres, des objectifs de cinéma. Et ça, pour les amateurs de cinéma, là, ça fait toute la différence d'avoir un objectif énorme. Là. C'est pas juste des petits trucs là, gros comme une pièce de 10 sous. Là. Mm-hmm. C'est des objectifs qui sont gros, presque comme des assiettes qu'on peut mettre avec les caméras RED. Ils ont un algorithme spécial qui permet d'enregistrer en format brut. Donc, on peut traiter l'image, l'épurer, la nettoyer, changer la palette de couleurs très facilement. Très prisé, comme tu l'as dit, dans le milieu du cinéma. Nikon a mis la main là-dessus. Est-ce que ça va apporter des innovations du côté des caméras grand public? Je l'espère. J'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Ben, strictement marketing, en tout cas, ça va certainement donner un bon coup de pouce à Nikon pour se démarquer dans l'imagerie numérique. RED, le lien est tentant. Bon. Entre RED et les yeux rouges, il n'y a qu'un pas dans la photo numérique et c'est ce qu'Apple tente d'éliminer, là, si je comprends bien.
Ben oui, c'est un site que j'aime beaucoup consulter, c'est Patently Apple qui tente de trouver tous les brevets qu'Apple dépose. Et Apple est assez secrète pour l'entreprise. Et donc, il les dépose parfois dans toutes sortes de pays obscurs avec des toutes sortes de passe-passe pour pas que ce soit vu trop facilement. Il travaille très fort. Et là, il semble qu'un des brevets qu'Apple a déposé, c'est sur la fin des yeux rouges, en utilisant l'illumination spatiale. On aurait ce que je comprends, c'est qu'il y a deux flashs. Un flash qui détecterait la zone avec les yeux avec le capteur de distance de la caméra et permettrait de faire un flash pour éclairer le visage et la scène en général et un deuxième flash pour éviter que les yeux soient rouges. Et donc, en combinant, moi, j'imagine que c'est un peu comme le HDR, où on prend une photo surexposée, et sous-exposée, surexposée, on combine les deux pour avoir une photo où les zones d'ombre sont bien éclairées et les zones brillantes sont bien éclairées aussi. Fait que ça va être un peu le même principe. Bien de voir quand est-ce qu'ils vont intégrer ça dans leurs appareils.
Ça fait penser à deux trucs. Quand on fait de la photo avec un appareil photo réflexe, on peut pointer le flash vers le plafond pour avoir une lumière d'ambiance. Ça, c'est une façon de pas diriger le flash directement dans les yeux des gens quand on fait du portrait. Mais aussi, récemment, je conduisais une voiture Mercedes-Benz et dans leurs phares, tu sais, des phares Xenon, c'est hyper puissant, là. C'est des lumières bleues. Puis quand on les croise à l'encens inverse, ça éblouit, ça a aucun bon sens. Ils ont un dispositif, puis je sais pas comment ils font ça, mais c'est comme un petit masque, un petit filtre qui reconnaît les véhicules en sens inverse et qui met un petit carré noir qui comme s'il masquait sa propre lumière. Et là, quand on est en sens inverse, on le voit pas, mais quand on va vers la... Évidemment, quand on conduit la voiture, ce qu'on voit, c'est qu'on voit l'illumination, puis on voit un carré noir qui suit un objet devant nous. C'est assez weird. Et je sais pas si un jour, on va avoir des espèces de flash comme ça, avec une espèce de bloqueur dans certains endroits, pour quand on détecte des yeux, par exemple, on pourrait bloquer le flash et empêcher
cette... qu'il y a trop de lumière dans les yeux. Je sais que... Des fois, les flashs, ce qu'ils font, c'est qu'ils clignotent un peu avant de prendre la photo. Ça fait flash, puis le pouf, ça prend la photo pour que les pupilles se rapetissent, se contractent. Souvent, quand il y a un flash, c'est qu'on est dans une zone sombre, fait que les pupilles sont bien dilatées. Surtout quand les gens font la fête avec des substances. Enfin,
C'est l'autre forme d'yeux rouge, là, c'est d'autres choses.
Parlant toujours d'Apple,
celle-là m'a fait bien rigoler parce que on vient de parler de la fin de l'Apple Car, la voiture à Apple, et là, on promet un écran. Évidemment, ce sont des sources et des rumeurs qui circulent selon lesquelles Apple aurait peut-être un Mac à écran pliable de 20 pouces à mettre en marché en 2027. Ça nous laisse un peu de temps pour en parler. On est quand même bien juste en 2024, mais parce que la folie des téléphones pliables, n'est-ce pas, continue sans cesse. Et il y a eu des rumeurs d'un iPhone pliable, et là, ce qu'on dit, c'est peut-être c'est plus applicable. Je veux dire ceci, je pense que c'est plus pertinent de replier une tablette pour en faire un téléphone ou un ordinateur pour en faire un plus petit, tu sais, bloc-notes, qu'un téléphone. Donc, je verrais la logique. Mais concrètement, l'application, je sais pas. Je sais qu'à une autre époque, le rêve des prototypes avant qu'on parle d'écran pliable pour vrai, là, c'est avoir des écrans enroulables où on tirait sur l'appareil et là, l'écran se déroulait pour être un peu plus large. Ça serait quelque chose pliable. Je suis un fan, moi.
Il y a tout le temps un pli au milieu qui est dérangeant quelque part, mais on l'oublie quand on l'utilise. Moi, j'ai un gros doute que Apple va se lancer dans les appareils pliables. Avant de lancer un ordinateur pliable, ils vont lancer un téléphone pliable. Et je ne crois pas qu'Apple va se lancer là-dedans. C'est ma prédiction, Alain.
Ben, est-ce qu'on voit des écrans pliables si c'est des écrans tactiles? Ça, ça et là, on sait que les Mac ne sont pas tactiles. Donc, pas leurs écrans. Puis, on n'est pas prêt d'en arriver à ça parce que chez Apple, ben, évidemment, ils disent ce qu'ils veulent, mais bref, on n'est pas là. Et parlant d'écran tactile, pour finir notre espresso du matin, n'est-ce pas, qui s'en vient un peu allongé, pas ça, sans continuer trop dans le jeu de mots. Microsoft aurait des nouvelles tablettes et nouveaux ordinateurs Surface à dévoiler à la fin du mois de mars. La date que j'ai vue passer, c'est le 21 mars.
21 mars.
Ouais. Des appareils qui seraient animés dans le cas de du portable, de l'ordinateur, par les nouveaux processeurs Core Ultra 9 d'Intel, entre autres, donc des super machines extrêmement puissantes, axées, encore une fois, sur l'intelligence artificielle, parce que c'est le buzz du moment, et une nouvelle Surface Pro qui serait animée, elle, par une architecture ARM, donc un processeur mobile de Qualcomm, je crois bien. Ce serait vérifié. On sait que Microsoft, l'espace d'un instant, il y a quelques années, a développé ses propres puces, un peu à la façon d'Apple et de Google, là, pour ses, sa Surface Pro X, qui était un prototype de la Surface du futur. Ça pourrait être maintenant qu'on pourrait voir. Parce que là, on était rendu à la version 9. La X est sortie quelque part là-dedans. Est-ce qu'on va revenir? Est-ce qu'on va sauter le 10? Apple avait fait ça avec son iPhone X, d'ailleurs, son iPhone 10. Donc, à suivre, 21 mars, on va s'en reparler, ça pourrait être le fun. J'imagine, j'espère, je croise les doigts pour que Microsoft nous tienne au courant.
Oui,
et qu'on puisse en reparler.
J'ai fait la demande ce matin, Alain, j'ai dit, oubliez pas, intelligence artificielle, laptop, c'est deux choses qui nous intéressent à
l'intelligence
de tech.
Et voilà. Parlant de quoi, on va aller directement dans le cœur du sujet, Pascal, dans l'actualité de la semaine, on a quatre bonnes nouvelles qui s'en viennent. Il y en a une, le fun, en tout cas, au moins dans le thème, mais on va vous dire, ben, il y en a de plus qu'une. Bien sûr. Mais avant ça, on va vous présenter notre partenaire des actualités InfoBref que vous connaissez sans doute à force de m'entendre vous en parler, j'espère. Et je vais pas vous embêter avec ça, mais si vous ne connaissez pas, allez visiter infobref.com. C'est un site web, évidemment, qui vous donne accès à une infolettre parce que c'est vraiment une infolettre qui tombe dans votre inbox tous les matins et qui, en 2, 3, 4 minutes, vous donne le condensé de l'actualité de la journée sans vous embêter, sans vous en beurrer épais sur l'angle, l'opinion, la vie, la chronique et tout ça. C'est vraiment du factuel pur jus. Ça permet de bien partir la journée, de savoir quoi dire après ça. Au coin de la machine à café au bureau, c'est gratuit, allez visiter ça. Infobref.com, une belle infolettre, ça vaut la peine d'être lu et consulté, évidemment, rapidement sur son mobile. Et voilà. Ça continue d'évoluer, cette histoire d'intelligence artificielle chez Google qui a eu des du bon et du moins bon avec Gemini. et qui là s'attaque maintenant au clickbait qui, je vais dire ça en passant, sont toujours aussi présents sur Facebook. Hein, donc, c'est pas un problème qui est en train de disparaître, ça, ce problème de clickbait là.
Mais au moins, il y a un pas qui est fait. Google a annoncé des nouvelles politiques contre le spam et les clickbait générés par l'intelligence artificielle. Il y a déjà des appâts à clic créés par les humains, des titres scandaleux, des trucs comme « Cette mise à jour pourrait-elle tuer votre ordinateur ?» ou « Outlook peut donner aux pirates un accès direct à notre ordinateur à cause de cette faille informatique. » Tu sais, des titres qui font peur, là, puis « Voici vos données. »
Oui, il y a des spécialistes de ces choses là qui existent également au Québec, effectivement.
Exactement. On connaît ce genre de site-là, mais là, c'était généré jusqu'à présent par des humains qui devaient faire preuve d'imagination, qui devaient prendre des pauses, qui devaient manger. Et là, maintenant, ça peut être généré très, très facilement. Des titres épeurants, du contenu douteux, rempli de liens, puis de contenu jugé pertinent par le moteur de recherche.
Optimisé pour le moteur de recherche, effectivement.
Et voilà, pour appâter les moteurs de recherche, Google devait au départ mettre en valeur le contenu de qualité, parce que c'était basé sur le principe des recherches universitaires, où quand une recherche était citée par beaucoup d'auteurs, c'était habituellement signe de sa qualité. Sauf qu'avec le web, il y a des petits malins qui se sont rendus compte qu'en créant toutes sortes de pages qui pointent vers ma page,
on peut déjouer le système. Ben oui.
Et voilà, ça truquait le système. Et là, Google avec une vague énorme. Entre autres, écoute, des messages nécrologiques qui annoncent le décès de personnes bien vivantes. Puis là, c'est propagé partout. Puis là, tu cliques, puis là, tu as de l'argent. Puis si tu es en haut des résultats de Google, là, ça peut être des sommes très, très, très importantes. Si ton site est bien monétisé avec des publicités, tu peux faire vite, là, des gens, c'est des 10 000, des 20 000, des 100 000 $ en un mois pour des sites bidons comme ça. Fait que les trois nouvelles politiques de Google, ils vont faire attention à l'achat de noms de domaines échus qui pourraient profiter de la notoriété pour relayer du contenu douteux. Pascal Forgette vient à l'échéance. PascalForgette.com vient à échéance. Quelqu'un le prend, met de la pub là-dessus, pointe vers d'autres sites. L'abus de multiplication de contenu. la création de pages uniquement pour gonfler les résultats. Des fois, je le vois là, créer 50 pages qui parlent de marketing dans, pour mon entreprise, pour la faire monter dans les... Donc, ils vont détecter ça et devraient limiter ça. Et surtout, l'abus de réputation d'un site. Et là, j'ai pensé à l'affaire Patrick White qui a ébranlé récemment le Québec. Quand un site avec une bonne réputation propose et publie du contenu douteux qui est généré par d'autres sites. Donc, tu laisses, je sais pas moi, un casino en ligne publier du contenu sur ton site pour pointer vers des sites douteux. Là, ils vont couper ce site-là. Fait que Patrick...
Mais il n'était pas le seul, il y avait d'autres gens qui étaient aussi par ailleurs journalistes dans des grands médias qui faisaient la même chose, mais eux se sont juste fait un petit peu taper sur les doigts. Fait
que je trouve ça dommage parce que Patrick White, en raison de son poste à l'université, je trouve que c'est un manque de jugement. Je me permets de le dire publiquement, là, la personne n'est pas une mauvaise personne, mais je trouve qu'il y a un gros, gros manque de jugement comme ça d'avoir, compte tenu de sa réputation et d'un prof de communication, de partager des liens douteux sur son site, c'était pas une bonne idée.
Effectivement, les liens douteux sont douteux pour une raison. T'as bien raison. Voilà. Du côté positif des choses, il s'est passé quelque chose de le fun cette semaine. Ben, en fait, la semaine dernière, mais là, ça a vraiment fait jaser cette semaine parce que les gens commençaient plus à en parler. Il y a eu un nouveau téléphone lancé par la compagnie, la marque anglaise Nothing, qui est une marque britannique. C'est rare, hein, des marques anglaises de produits électroniques, et c'en est une qui, semble-t-il, fait plutôt bien, là, et qui a présenté cette semaine son Phone 2A, qui est une version bon marché de son Phone 2, tout court, dont on a parlé avant Noël, qui est un beau téléphone Android qui a comme particularité d'avoir des glyphes qui sont en fait un jeu de petites bandes lumineuses à l'endo qui permet de faire des alertes visuelles de façon originale et personnalisable pour, bon, en tout cas, plein de raisons, et qui a aussi une interface logicielle assez le fun sur Android, qui est Android 13 à ce moment-là. Et là, ce qu'on vient de présenter, c'est un Nothing Phone 2A à un prix ridicule. C'est 400 $ américains. Il y a une version de base à 350 $ américains. Ça revient à moins de 400, c'est 470 $ ou moins le canadien pour un téléphone Android, qui dans ce cas-ci a Android 14, donc la plus récente version du système de Google. On dit de Nothing que c'est une marque qui a vendu 2 700 000 appareils au cours de la dernière année et demie à peu près, et qui a généré plus d'un demi-milliard de dollars américains en revenus. Donc, c'est une marque qui va plutôt bien, bien qu'elle reste relativement modeste en termes de chiffres. Là, ils vendent des centaines de millions d'appareils dans une année. Donc, c'est pas tout à fait ça. Mais ce qu'on présente du côté de Nothing, c'est qu'on se présente comme une marque qui se veut grand public, mais en anglais, ils ont un mot qui est le fun, qui est tech-savvy. Donc, il s'adresse aux gens qui savent c'est quoi Android et qui savent c'est quoi un téléphone et qui n'ont pas besoin de cette espèce de on vous prend par la main et on vous mène vers vos applications patente à gosse. Et ça marche plutôt bien. En fait, ce que puis tout le monde l'essaie, cette carte-là, là, dans le marketing, mais ils essaient de se présenter comme le Apple de téléphone Android, avec des appareils qui sont soignés, une approche très minimaliste, puis ainsi de suite. Mm-hmm. Ça, vous en faites ce que vous voulez, évidemment, parce que c'est ça, c'est pas mal, tout le monde s'essaye à ces jeux-là. Le téléphone Nothing 2A est livré de base, a quand même une fiche technique minimaliste, vu que c'est un appareil qui se veut bon marché. La principale particularité qui est le fun, c'est qu'on remplace les métaux, c'est l'aluminium et tout ça, par du plastique et des matériaux recyclés. Mm-hmm. Donc, on réduit en plus l'empreinte carbone. Ça réduit aussi le prix de l'appareil, ce qui permet de le vendre à moitié prix. Et il vient avec 128 gigaoctets de stockage et 8 gigaoctets de mémoire vive de base, mais on peut doubler tout ça pour moins de 500 $ sans aide à l'achat, sans forfait, sans rien, là, ce qui est quand même la moitié du prix d'un téléphone de ce genre-là, comparable à système Android actuel. Donc, c'est quand même un plus de ce côté-là. Et là, il a été présenté la semaine dernière. J'ai vu sur le site de Nothing Canada, il est présenté ici. Je ne sais pas s'il est en vente actuellement. Je pense que oui, mais je pense qu'il est en précommande. On vient de le mettre en marché en Inde, surtout parce que là-bas, c'est un marché qui est vraiment plus sensible au prix des téléphones. D'ailleurs, Apple a beaucoup de misère à vendre son iPhone là-bas parce que justement, les acheteurs cherchent des produits très, très, très bon marché, beaucoup plus qu'ici. Et on pense que Nothing peut se faire une niche là-bas. On va les contacter, on va essayer de voir si on peut avoir l'appareil pour vous en parler, mais de savoir que ça existe, pour ceux qui se magasinent un téléphone, c'est peut-être pertinent parce que c'est pas mal moins cher que téléphone Android comparable. Et pourtant, on a tout ce qu'il faut dans le téléphone pour s'en sortir. D'ailleurs, l'appareil photo, ce qui est intéressant, c'est si vous voulez voir de quoi il y a l'air, on a redéplacé au centre du combiné le capteur photo pour le mettre sur le coin en haut à gauche. Il reste en haut de l'appareil, mais au milieu de l'endo. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne concrètement d'essayer ça comme ça. Mais je trouvais ça intéressant. Ça veut dire que, et là, Pascal, je suis désolé de te le dire, mais ça confirme un peu la popularité des photos et des vidéos à la verticale.
Mais oui. Ah, non, pourquoi j'ai dit oui? Non, c'est mal.
Attends, c'est dit.
C'est mal, Alain.
Mais bon.
Nothing, il y a déjà des commentaires sur le site, comme tu le dis, est en précommande, nouvelle notifiée de l'arrivée du Nothing Phone 2A au Canada. Et on dit que certaines critiques ont déjà dit que c'était le téléphone de l'année 2024.
Ben, ils ont dû se le faire donner gratuitement, bien sûr. Et donc, il y a des influenceurs pertinents. Voilà.
À ce prix-là, c'était pas un mauvais.
Mais le prix est intéressant. Il n'y a aucun doute. Ouais. Motorola est aussi très populaire dans ce créneau-là parce qu'eux aussi font des appareils, mais leur fiche technique est pas mal moins intéressante. Et normalement, ça aurait été OnePlus qui serait dans ce créneau-là parce que c'était leur stratégie au départ d'avoir des appareils à moitié prix. Presque par rapport à ce qui se vend le plus.
Je remarque que dans le Phone 2A, il y a toujours des glyphes, il y a toujours des petites notifications lumineuses, mais sont simplifiées par rapport aux deux tout court. Ça vaut la peine de jeter un coup d'œil sur le site nothing.tech pour en savoir plus. On va essayer de l'essayer.
Ça va nous faire on va leur envoyer un petit bonjour. Pour les gens qui aiment magasiner sur Amazon, Pascal, tu as trouvé une intelligence artificielle qui permet de le faire à notre place? Qu'est-ce qu'elle propose, cette IA-là?
Écoute, c'est particulier. J'ai sursauté quand j'ai vu ça. C'est Rufus, un assistant qui est entraîné sur le catalogue de Amazon pour nous aider à trouver ce qu'on veut. J'avais écrit Google dans mes notes. Je sais pas pourquoi.
On parle pas le besoin de nommer ces outils-là avec le nom de quelqu'un. On aurait pu juste l'appeler, tu sais, Shop with Amazon ou un truc dans le genre.
Ben oui, c'est ça. Mais il s'appelle Rufus. Ouais. Ce que ça nous permet, c'est de trouver ce qu'on veut alors qu'on est en train de magasiner sur Amazon. Et moi, ma réaction, c'est, il me semble qu'il est un peu trop tard. Moi, quand je vais sur Amazon, habituellement, j'ai fait mon magasinage, mais peut-être qu'ils veulent nous inciter à commencer à faire nos recherches directement dans Amazon, se pointer sur Amazon et tout de suite demander détails à considérer pour l'achat de souliers de course. Et là, l'assistant Rufus devrait fouiller dans Amazon et le web, pas seulement dans Amazon, pour comparer des produits, on pourrait poser des questions sur un produit, nous donner des idées de cadeaux pour une occasion, et ça directement en allant sur Amazon. Encore une fois, je trouve que c'est tard d'arriver sur Amazon en posant des questions de ce niveau-là. C'était lancé en bêta, un tout petit nombre d'utilisateurs dans l'application mobile d'Amazon aux États-Unis, fait que c'est très limité. Et ce qui me fait peur là-dedans, c'est qu'on parlait des faux commentaires, des fausses pages, des faux. Sur Amazon, on le sait, il y a beaucoup de commentaires très douteux, des petits produits d'entreprises inconnues qui ont 2000 commentaires positifs, enthousiastes, génériques, surtout des commentaires très vides. Je suis très curieux, si on entraîne l'intelligence artificielle là-dessus, quel type de bons commentaires ou de feedback, est-ce que ça va vraiment nous donner le meilleur produit, la meilleure chaussure de course, ou ça va nous proposer qu'est-ce qui a été...
Il existe déjà des extensions pour Chrome, entre autres, pour avoir le meilleur prix parmi tous les produits vendus sur Amazon directement ou sur d'autres plateformes de vente en ligne. Donc, est-ce que c'est nécessaire d'ajouter cette couche-là? Ouais. Ça soulève ma question, mais ça peut être curieux d'être intéressant ou intriguant de voir ce que propose cet outil. Évidemment, si c'était un outil qui nous trouvait ce que tu as besoin quand tu en as besoin, paf, ça serait cool, puis avoir confiance dans un outil comme ça, parce que c'est ceux qui n'aiment pas magasiner, ben oui.
C'est ça, tu n'as même pas besoin de le demander, il te l'envoie. Ça serait
ça, c'est l'étape suivante, le prédictif.
C'est ça. Mais ça, c'était le but des assistants Amazon. Le but, c'était de pouvoir dire, hey, j'ai besoin de papier de toilette. Et là, le papier de toilette arrivait.
Exact.
C'est pas rendu là. Étrangement, les gens se gardent une petite gêne à commander de vive voix des objets.
Dans la marque, sans rien, effectivement. Bon point. Les gens qui ont un iPhone ou un iPad ont peut-être remarqué qu'Apple a lancé la version 17.4 du système d'exploitation de ces deux produits mobiles plutôt cette semaine. C'est pas assez rare qu'on fait des nouvelles sur des mises à jour de logiciels qui sont en principe mineurs, mais ça va être quand même assez intéressant parce qu'il y a plusieurs nouveautés qui nous concernent peut-être un petit peu moins ici, mais qui pourraient s'en venir ici bientôt parce que c'est la réponse d'Apple à la législation européenne, la fameuse loi là sur les marchés numériques, le Digital Markets Act, qui se veut une façon de forcer Apple à ouvrir ses appareils, son iPhone spécifiquement, à des boutiques d'applications. Il y a d'autres façons de facturer qui ne passent pas par les outils d'Apple. Je pense qu'en tout cas, il y a tout un débat là-dessus à savoir qui a raison, qui a tort, parce qu'on accuse l'Europe de jouer essentiellement le jeu de Spotify qui veut vendre son service musical par abonnement sur l'iPhone sans avoir à remettre une commission à Apple. Et pourtant, il est déjà possible de le faire. Il suffit de s'abonner ailleurs que sur son iPhone pour que Spotify récolte 100% de l'argent. Le problème avec Spotify, c'est pas tant l'argent qui rentre que l'argent qui sort parce qu'ils donnent très peu d'argent aux artistes. Mais ça, clairement, ils en parlent pas de ça, eux, là-dessus. Une loi comme ça qui serait le fun, ce serait effectivement qu'on crée cette espèce d'interopérabilité, des espèces de plateformes agnostiques où on dit c'est une plateforme logicielle, matérielle, transactionnel, appelez ça comme vous voulez, ben, que toutes ces couches-là soient universelles l'une entre l'autre, ça serait magique, mais qu'à la fin de la journée, les créateurs de contenu soient ceux qui sont payés, non pas les outils transactionnels, parce qu'Apple, ça prend une cote, le développeur, ça prend une cote, tout le monde, ça prend une cote, puis l'artiste ou le créateur à l'autre bout ne prend qu'une fraction de ce qui lui revient. Et pourtant, c'est lui qui a créé toute la patente, la chanson, ou vous voyez ça comme vous voulez. Il y a aussi Epic Games qui doit être content de cette loi-là parce qu'ils voulaient avoir leur propre App Store pour vendre leur propre truc. Fortnite n'existe pas sur iPhone, peut-être à cause de ce 30% qu'Apple prend sur tous les montants d'argent qui transigent dans leurs applications. Et on le sait que Fortnite, il y a beaucoup de joueurs qui achètent du contenu dans Fortnite. Et ça aurait été pour Epic une façon de donner de l'argent à Apple sans qu'Apple fasse rien. Donc, clairement, il y avait une chicane là aussi. Et on pense que Microsoft se prépare avec sa propre boutique d'applications pour vendre ses outils bureautiques, mais aussi ses jeux. Parce que c'est maintenant ils ont un méchant catalogue avec Activision, Blizzard et Xbox. Ce serait une façon pour eux de faire tout ça sans avoir à remettre de l'argent à Apple. Donc, tout ça est inclus dans iOS 17.4 qui offre l'option aux gens de choisir leur nouveau, donc c'est des différentes sources pour leurs applications, mais aussi de choisir le navigateur par défaut. Parce que l'autre partie de la loi en Europe, c'est qu'on un peu comme c'était, je me rappelle plus exactement, parce qu'à l'époque, j'étais moins là-dessus, mais Microsoft s'est fait chicaner à une certaine époque où Internet Explorer était le navigateur par défaut au début d'Internet, disons ça comme ça. Et là, c'est un peu la même chose qui se passe avec Safari sur iPhone. On dit, il faut que vous laissiez l'utilisateur choisir son navigateur par défaut. Et là, cette fenêtre surgissante apparaît. Les applications peuvent aussi choisir le moteur de navigation de leur choix, qui n'est pas nécessairement l'outil WebKit d'Apple, mais peuvent aussi, par exemple, utiliser l'outil derrière Chrome ou celui de Microsoft aussi. Il y a une douzaine d'options de navigateurs alternatifs qui sont proposées dès qu'on ouvre l'iPhone en Europe, basé sur les plus populaires sur l'App Store. Donc, peut-être DuckDuckGo, des trucs comme ça qui font plus attention à la vie privée, puis ainsi de suite. Et on a aussi forcé Apple à laisser l'outil de transaction sans contact NFC sur leur téléphone libre d'être utilisé par des applications sans passer par le protocole Apple Pay. Je vais devoir comment ça va se traduire, ça, mais il me semble que ça ouvre la porte à, en tout cas, je sais pas à quel point ça va donner des services sécurisés, mais on pourrait, encore une fois, offrir des services, mettons PayPal, pour arriver avec une solution de paiement qui ne remettrait pas d'argent à Apple pour avoir utilisé Apple, ben pas Apple Pay, mais la puce NFC et tout le kit sur le téléphone. J'ai hâte de voir comment ça va se traduire tout ça concrètement en Europe et si ça va venir chez nous, parce que c'est sûr que tout le monde regarde ça d'un œil intéressé, parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. C'est au-dessus de 80 milliards de dollars américains par année qu'Apple fait avec son App Store sans faire autre chose que juste s'assurer qu'il n'y a pas trop d'applications un peu niaiseuses qui sont là, donc à suivre. Deux autres petites... C'est ce qu'Apple aimerait, ce dont Apple aimerait qu'on parle plus, mais il y a deux principales nouveautés de iOS 17.4 et d'iPadOS 17.4, c'est qu'on peut désormais avoir la transcription automatique dans l'application des balados. Donc, si vous voulez nous lire plutôt que nous entendre, ça va se faire tout seul dans l'application balado d'Apple. Et on a aussi ajouté 118 nouveaux emojis au clavier d'emojis, dont le maillon de chaîne brisé. Et il y en a un autre je l'ai oublié, je suis désolé, mais il y en avait un qui m'a fait bien rigoler, là, ben évidemment, il y en a 118, il y en a quelques-uns qui doivent être très rigolos. Mais pour ceux qui tiennent le compte, ça commence à faire beaucoup d'émojis
à travers les. On n'a jamais assez d'émojis.
Ben, souvent, il y a celui qu'on aimerait avoir, puis on le trouve pas. Fait que là, il va être soit il existe, puis difficile à trouver, ou alors, voilà, on est rendu là.
Moi, je suis encore en train de faire le bonhomme sourire avec le point virgule, puis la parenthèse.
Ah, mais ça, c'est old school. Je pense que ça va revenir. Ça va revenir à la mode, là, de refaire nos bons vieux emojis, nos smileys en mode ASCII. C'est sûr que c'est juste cette phrase-là dit que j'ai au-dessus de 35 ans et même plus, parce qu'on disait, on dit plus ça maintenant. Mais bon, prenez des notes, les jeunes. On peut faire des smileys avec des codes ASCII. Je vous laisse voir si la transcription balado d'Apple a bien compris ce que j'ai dit, parce que j'ai des gros doutes. Aïe. On va laisser le temps de penser à ça de toute façon parce que c'est la fin de l'actualité. On revient tout de suite avec Valérie Coutu de Jovaco. On va vous parler de la technologie au Québec, de la place des femmes dans la technologie au Québec, de comment vous pouvez trouver l'employé de vos rêves grâce à des outils numériques intelligents. On parle de tout ça dans une seconde. Restez avec nous. Une tasse de tech.
De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget.
Bienvenue à une tasse de tech. Vous savez, c'est une journée spéciale ce vendredi 8 mars. En fait, comme chaque 8 mars, à chaque année, il faut le souligner, c'est la journée internationale du droit des femmes. Et c'est plate parce que c'est juste une journée et c'est la journée où on tout d'un coup tout converge pour discuter de l'équité professionnelle à tous les niveaux sociaux, de la diversité dans le milieu de travail, à la maison, partout ailleurs. Mais c'est une, en fait, ça devrait être une priorité de tous les instants d'être inclusif, d'être égalitaire et ainsi de suite. On a la chance cette année à une tasse de tech d'en parler avec des gens qui font preuve. Je cherche l'adjectif de pionnier parce que pioneership en anglais c'est ce que j'utiliserais. Je ne sais pas c'est quoi l'équivalent en français de ce mot-là, mais qui sont peut-être un petit peu à l'avant-garde de ça. Des gens d'une entreprise de Montréal qui s'appelle Jovaco, qui est une entreprise technologique. D'ailleurs, ça vient nous chercher, ça vient nous rejoindre. La présidente de Jovaco, c'est Madame Valérie Coutu qui est avec nous. Bonjour Valérie.
Bonjour Alain.
Merci de prendre le temps d'être avec nous. On va parler de tout ça de différentes façons, mais d'abord, j'aimerais ça que tu nous présentes un peu Jovaco, parce que ce que vous faites, c'est assez typique de ce qui se fait dans les TI au Québec, mais vous êtes aussi une entreprise qu'on pourrait facilement stéréotyper en disant ça doit être tous des gars qui travaillent dans un sous-sol, mais c'est vraiment pas ça que vous faites. C'est vraiment pas ce que vous êtes comme entreprise non plus, là.
Exact. Donc, Jovaco, on est une entreprise qui se spécialise dans l'implantation des solutions de gestion ERP et CRM. Donc, ERP va aller aider les entreprises à automatiser tous les processus d'affaires qui tournent autour des finances, évidemment, mais aussi qui peut toucher les ressources humaines dans certains milieux, la fabrication, la distribution. Nous, on se spécialise plus spécifiquement avec les entreprises qui gèrent par projet, des entreprises de services professionnels, entre autres. Puis, on développe des modules spécifiques pour améliorer, dans le fond, l'utilisation des outils ERP et CRM, comme je le mentionnais, de la plateforme Microsoft.
Mm-hmm. Puis, vous êtes entreprise, typique d'une PME, vous êtes une cinquantaine d'employés, je pense. Et ce qui est intéressant, c'est quand on parle souvent d'équité salariale et tout le reste dans le milieu du travail, vous avez une bonne représentation homme-femme au sein de votre entreprise, là.
Oui, tout à fait. Donc, j'imagine que le fait d'avoir une présidente à la tête de l'entreprise attire peut-être à l'occasion d'autres femmes là, de venir poser leur candidature, mais oui, chez nous, on a plus de 40% de nos effectifs, dans le fond, qui sont des femmes dans le domaine des TI et à tous les niveaux de l'entreprise et dans tous les départements, autant la programmation, les services conseils, vente marketing, administration. Mm-hmm. Au niveau de l'équipe de direction, là, on parle de plus de 60% là, de l'équipe de direction qui sont des femmes aussi. Donc, effectivement, c'est plutôt rare dans notre domaine d'affaires. Mais je pense que ça va aller en augmentant dans les années à venir. Je pense que c'est une industrie qui est amenée à évoluer de ce côté-là. Puis on voit de plus en plus de femmes s'intéresser aux technologies.
Ouais, ben ça fait tomber un peu le stéréotype très TI, hein. On dit c'est tous des gars en chemise polo là, manche courte et tout le kit avec le crayon dans la poche. J'ai vraiment une image dans ma tête. Puis je sais qu'elle est pas correcte, mais justement c'est bien qu'elle soit pas correcte parce que c'est clairement un milieu qui est plus diversifié qu'on a l'impression qu'il l'est. Vous avez gagné un prix, je vais le dire, parce que ça vaut la peine de souligner le prix Women in Dynamics de Microsoft en 2002. Donc clairement. Vous êtes à l'avant-scène de ça. Et on l'oublie souvent parce que, et je vais faire un lien avec une autre partie de ce qui occupe tes journées, j'ai l'impression, mais je parlais récemment avec la présidente du Réseau Ange Québec, qui est une femme. Il y a beaucoup de gens dans le secteur très large des technologies, là, que ce soit du jeu vidéo, mais vraiment au sens très large. Il y a aussi le Ange Québec, c'est plus du financement, du capitalisme, mais qui sont des femmes qui sont très représentées, très actives aussi. Donc, c'est important de le souligner. Et toi, tu te trouves aussi à être à la tête du réseau, de l'Association québécoise des technologies, l'AQT, si je ne me trompe pas là.
C'est ça, présidente du conseil d'administration depuis cette année. Donc, c'est effectivement une association qui regroupe beaucoup d'entreprises en technologie, qui est un réseau qui permet au PDG, mais aussi à plusieurs personnes là, au sein de ces organisations-là, d'échanger, de se côtoyer, de discuter des meilleures pratiques, puis de bien représenter l'industrie aussi. Mm-hmm. Effectivement, c'est un autre endroit où par expérience, il y a quand même moins de femmes que d'hommes qui sont représentés, mais on sent aussi au sein de l'association là, qu'on souhaite mettre de l'avant davantage les femmes qui sont dans le domaine des technologies.
Mm-hmm. Au niveau de la QT, c'est quand même assez gros. C'est peut-être une association qui est un petit peu discrète au terme grand public, mais c'est quand même pas mal de monde. Là. C'est quoi comme volume d'entreprise et de travailleurs? C'est une grosse industrie, là.
C'est une grosse industrie. C'est sûr qu'au niveau de l'association, on représente environ 400 membres, un nombre élevé évidemment d'employés, là, des entreprises de toute taille, là, des mm-hmm. très petites entreprises à de la très grande entreprise aussi. Mais c'est beaucoup connu du milieu B2B, peut-être plus, là, du milieu d'entreprise et beaucoup de représentation au niveau gouvernemental. Donc, c'est une association qui est bien reconnue, je dirais, dans l'industrie, mais effectivement, peut-être plus du côté des entreprises.
Ouais, effectivement. Je ne sais pas s'il y a des mesures au niveau de la QT d'ailleurs qui sont prises pour stimuler la diversité. Évidemment, il y a beaucoup de tendances, il y a beaucoup de choses qui ont changé au niveau de la façon de travailler. Là, j'ai dit ça dans le journal cette semaine, toute la question des centres de la petite enfance et ainsi de suite ont beaucoup aidé à démocratiser l'accès au marché du travail pour tout le monde, là, les hommes et les femmes, évidemment. Mais au niveau de l'industrie comme telle, je sais qu'il y avait pendant un bout de temps, il y a quelques années, il y avait beaucoup d'entreprises qui poussaient fort pour intéresser les jeunes femmes, entre autres, à étudier dans les secteurs techniques, mathématiques, scientifiques, ainsi de suite, tout ça. Puis il y avait des mesures aussi au niveau de la... Parce qu'on parlait beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. Il y a deux ans, je ne sais pas d'ailleurs si c'est encore un problème dans les TI. Puis c'est une façon de régler le problème, c'est d'élargir un peu la diversité dans le créneau. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont faites à l'OQT pour justement stimuler ces mesures-là?
Ben oui, je pense qu'il y a vraiment une belle sensibilité là, de la part de l'OQT. Déjà ce mois-ci, là, si vous consultez leurs réseaux sociaux, là, particulièrement sur LinkedIn, à chaque jour, ils mettent de l'avant une femme PDG. Okay. Pour le mois justement qui représente les femmes plus particulièrement. Donc, ils nous font découvrir là, plein de profils de femmes PDG dans l'industrie techno. Fait que ça, c'est une super belle initiative. Puis, dans cette même ordre d'idée-là, depuis plusieurs années, dans le fond, l'AQT organise un événement qui s'appelle Vision PDG, qui est vraiment un très bel événement qui regroupe des PDG ensemble pour 2 à 3 jours de conférences puis d'échanges. Puis, dans le cadre de cet événement-là, depuis quelques années, là, ils vont favoriser les inscriptions pour les femmes. Ils vont offrir soit des bourses pour réduire le coût, encourager les femmes là, à venir participer à cet événement-là, qui était jadis très représenté par une majorité d'hommes. Mais je dirais, de plus en plus, on voit que le nombre de femmes qui participent augmente. Je pense que c'est aussi en lien avec l'évolution qui se fait dans l'industrie actuellement. Donc, plusieurs mesures de ce type-là qui vont être organisées là, par l'AQT pour vraiment faire mettre en lumière là, ces femmes-là qui travaillent dans l'industrie. Je pense que c'est des belles initiatives pour démocratiser un peu cet environnement-là, parce qu'effectivement, on arrive encore dans certains événements où on va être la seule femme parmi un groupe d'hommes. Puis des fois, les gens sont surpris que ça soit des femmes à la tête d'entreprises techno, mais pourtant, il y en a quand même de plus en plus. Là. Puis des très, très beaux modèles à suivre aussi.
Ben oui, effectivement. Puis c'est en tout cas, moi, je trouve ça très, très bénéfique d'arriver dans un groupe de professionnels, parce que c'est ma job de suivre ça au niveau journaliste, puis d'avoir cette diversité de gens, parce que souvent, ça fait une diversité de tons et de points de vue, puis ça apporte... En tout cas, pour moi, ça fait des meilleurs articles, je veux dire. Au minimum, ça fait ça. Je l'ai dit tantôt, puis je sais pas si, au niveau de l'AQT, s'il y a des nouvelles statistiques là-dessus, parce que il s'est passé beaucoup de choses dans l'actualité au niveau des derniers mois, mais est-ce qu'on parle encore de pénurie de main-d'œuvre en TI? Est-ce que c'est encore un secteur où les gens arrivent et sont embauchés à pleine porte parce qu'ils manquent de professionnels, ou ça s'est calmé là avec l'actualité des derniers mois?
Ben, je pense que ça s'est calmé un peu. On n'est plus dans ce que c'était là. Il y a, je dirais, au début de la pandémie là, qu'il y a eu quand même une base plus importante. Je dirais que là, ça s'est calmé. Ça reste que c'est pas facile d'embaucher. Il y a quand même je sais pas si on peut parler de pénurie, mais certainement.
Il y a encore un manque à gagner ou encore un besoin.
Ouais, exact. Ouais, ouais, okay. Je dirais ça, tout à fait. Mais on voit quand même qu'on a on a des candidatures, on a plus de candidatures qu'on en avait. Je pense que y a des bonnes candidatures, il suffit de bien les évaluer.
Oui, ouais. Puis j'imagine au niveau des gens qui appliquent aussi, évidemment, il y a peut-être, c'est peut-être moins surchauffé que ça l'était à un moment donné, donc c'est important de bien mettre à jour son CV. Ouais. J'imagine qu'on peut s'attendre à avoir des belles conditions de travail. Là. Je sais pas, je présume qu'en TI, parce que dans mon métier, c'est la même chose, c'est beaucoup de numérique, donc il y a beaucoup de télétravail. Ouais. Je présume que la conciliation vie professionnelle et vie personnelle doit être pas mal positive dans le secteur des TI. Là.
Oui, c'est sûr que effectivement, avec depuis la pandémie, je pense que ça a amené encore plus d'entreprises à offrir le télétravail. Ça a été comme forcé pendant la période de la pandémie, puis ça l'a amené. Ça a démocratisé le télétravail, surtout en TI. Fait que je pense que oui, ça amène une belle qualité de vie. En général, je dirais que les entreprises en technologie, aussi dû au manque de main-d'œuvre dans les dernières années, ont voulu être très créatifs et attractifs. Fait qu'on a mis plein de mesures en place pour avoir des environnements de travail intéressants qui allaient leur permettre d'attirer plus de candidats. Fait que je pense qu'il y a des mesures d'horaires flexibles, de développement de carrière, de la formation, du temps de qualité pour des activités physiques. Il y a donc plein de mesures qui ont été mises en place qui deviennent de plus en plus présentes dans beaucoup d'entreprises technologiques. Mm-hmm. Puis effectivement, qui deviennent un cadre de travail intéressant, entre autres pour des femmes, de travailler dans des environnements de travail comme ça qui vont leur permettre d'avoir une bonne conciliation travail-famille, entre autres.
Oui, ça c'est un gros plus. Même les papas aussi peuvent profiter de ces conciliations.
Oh, tout à fait. Effectivement.
Il n'y a pas de mauvais moment pour prendre le plus de congés parentaux possible parce que les enfants, quand ils vieillissent, ils ne rajeunissent pas après. Hein, non, c'est ça. On n'y revient jamais puis on s'ennuie des fois après ça d'avoir raté des occasions. Il y a évidemment, j'en parle quasiment à toutes les deux phrases, il y a beaucoup de buzz autour de l'intelligence artificielle générative et on disait pendant un bout de temps, un peu avant les fêtes, que ça allait remplacer beaucoup du travail de bureau parce que c'est vraiment, ça permet de produire des documents Word, des documents Excel, des affaires de même assez rapidement. Pour une entreprise TI comme Javaco, comment vous regardez ça? Est-ce que vous voyez ça comme une menace ou comme un outil de plus? Où est-ce que ça se situe dans ce que vous offrez aux entreprises qui ont des outils numériques, là?
Clairement comme un outil de plus. Je pense que c'est pour gagner en productivité. Je pense que ça remplace pas encore nos humains et nos employés, mais ça va les rendre plus productifs certainement. Je pense que c'est ce qu'on voit en tout cas actuellement. La possibilité d'utiliser ces outils-là peut nous faire sauver quand même plusieurs heures sur différents types de tâches qu'on a ici à l'interne. Puis je pense que c'est le début, mais ça va toujours rester. Je pense que le travail va changer, il va avoir plus de temps pour faire de l'assurance qualité, pour faire de la documentation sur les produits, par exemple, ou sur les processus, mais certainement que on voit déjà là, qu'on peut gagner en productivité à plusieurs niveaux dans l'organisation.
Ouais. Ben, déjà, ce que vous faites, puis on va peut-être un peu réexpliquer ERP, CRM, tout ça, ce que c'est, mais c'est des outils vraiment très de bureautique, assez sérieux. On parle de comptabilité, on parle de tout ce qui gère, j'imagine, aussi la feuille de temps des employés, des choses comme ça. Est-ce que, puis vous êtes un intégrateur Microsoft, donc je serais tenté de vous demander, parce que Microsoft est pas fort sur l'intelligence artificielle, est-ce que vous le sentez, est-ce que vous le sentez venir? Est-ce qu'ils essaient d'intégrer ça dans des outils comme ceux que vous offrez aux entreprises?
Oui, tout à fait. Ils commencent déjà à l'intégrer autant dans les plateformes CRM que ERP. Dans le fond, c'est des petites fonctionnalités graduellement qui incorporent, qui fait appel à Copilot entre
autres. Oui, voilà. Mm-hmm.
Ce n'est que le début et Microsoft, dans les conférences avec les partenaires, entre autres, s'intéresse beaucoup à aller chercher des idées sur ce qu'ils pourraient automatiser et faire en intégrant plus d'intelligence artificielle dans leurs applications. Là, qui va donner encore plus de valeur aux entreprises d'utiliser leurs produits à eux.
Ben déjà, la promesse des outils comme Dynamics, les outils ERP, c'était un peu de tout regrouper, de faire une espèce d'un seul point d'accès pour plein d'informations qui traînent partout dans l'entreprise. Puis j'imagine ce que vous offrez, ça doit probablement renforcer un peu cette formule-là, j'imagine, d'ajouter Copilot et tout ça?
Bien, c'est ça. C'est sûr que je pense quand les entreprises optent pour des applications de Microsoft, à la fin, c'est que déjà, à l'intérieur de leur entreprise, ils ont plusieurs autres applications de Microsoft. Donc, ils ne sont pas juste son ERP, CRM, mais ils vont utiliser Microsoft 365, la suite Office, les outils de collaboration. Donc, à la fin, c'est d'aller chercher vraiment tout le stack Microsoft ou les différentes plateformes de Microsoft, les intégrer ensemble et tirer profit de toute la recherche et développement qui est fait pour faire évoluer leurs applications, mais aussi les outils d'intelligence d'affaires, d'intelligence artificielle.
C'est drôle parce que j'ai mis la barre à un certain niveau en termes de, tu sais, c'est quoi l'intelligence artificielle et quand est-ce que ça va avoir vraiment un impact concret. Je me dis, le jour où mon rapport d'impôt va se faire tout seul, là, on va avoir atteint un niveau, tu sais, mais on n'est pas encore là, donc ça prend encore des outils qu'on peut utiliser, qu'un humain va avoir besoin d'utiliser pour arriver à fournir des documents ou des choses comme ça qui sont, j'imagine, plus cruciaux en entreprise encore que pour des particuliers, là.
Oui, tout à fait. Puis je pense que ce qu'on, en tout cas, personnellement ou dans notre vision, nous, chez Javaco, c'est surtout d'arriver à, c'est ça, augmenter la productivité. Je pense que, avec la pénurie de main-d'œuvre, avec l'augmentation des coûts, on veut être capable d'en faire plus avec moins. Fait que, je pense que c'est là qu'il y a un gain. Donc, c'est d'aller chercher ces gains-là de productivité qui vont avoir un impact chez nos clients, puis même chez Javaco.
Ben, quelqu'un disait, c'est quelqu'un chez Microsoft quand il parlait de Copilot en entreprise, c'est que ça aidait à la prise de décision. Donc, les gens qui veulent avoir une espèce de vue d'ensemble de leur entreprise peuvent plus rapidement voir le data, mais voir aussi un résumé de la donnée faite par ces outils-là, ces algorithmes-là, et avoir un meilleur conseil sur comment, où se trouve la croissance, où se trouvent justement les choses améliorées, puis ainsi de suite. Est-ce que c'est un peu ça que vous voyez de votre côté?
Oui, ben en fait, je pense que ça, c'est la vision de Microsoft qui est partagée.
Dans le futur, peut-être, aussi.
On est rendu là aujourd'hui, je pense pas. Tu sais, par expérience, dans le domaine de Microsoft, souvent, ce qu'ils nous annoncent là arrive quelques mois plus tard dans une grande proportion dans les entreprises. Mais avec le temps, je dirais, ce délai-là entre le temps où Microsoft l'annonce et en parle et la présence dans les entreprises, ben ce délai-là se raccourcit maintenant. Puis fait que je serais pas surprise que ça arrive quand même prochainement. Maintenant, bon, il y a toute la question de coût derrière ces outils-là. Est-ce que ça sera pour toute entreprise de toute taille, peut-être ultimement, peut-être à court terme, ça sera pour les plus grandes entreprises qui pourront se le permettre. Mais encore là, moi, je pense que avant de dire que ces outils-là nous permettent de prendre des meilleures décisions, je pense que l'objectif premier qu'on devrait avoir, c'est de chercher la productivité puis le gain en productivité dans notre organisation.
Ouais, on soupçonne pas des fois à quel point c'est facile en fait d'améliorer la productivité de son entreprise. Puis effectivement, les outils numériques, sans que ça aille aussi loin que l'espèce de robot humanoïde qu'on voit souvent sur les images, là. Pas besoin d'aller là, on peut juste effectivement utiliser quelques bons outils. Puis c'est le fun de voir que vous en offrez chez Javaco puis qu'il en existe des bons qui sont accessibles localement. Valérie Coutu, présidente de Javaco et présidente du CA de l'OQT, je pense que c'est ça le titre exact.
C'est ça, exact.
C'est super intéressant. Merci d'avoir été avec nous à une tasse de tech. Au plaisir de se reparler prochainement.
Ben oui, ça m'a fait plaisir. Merci de l'invitation.
Ça fait plaisir. Ça nous fait plaisir à nous aussi. Nous, on prend une très courte pause et on revient avec nos gadgets de la semaine, une tasse de tech. Restez avec nous. Bougez pas.
De retour à une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget.
Et re-bienvenue à une tasse de tech. On va vous parler de nouveaux gadgets pas mal cool. On va faire une chose assez intéressante. On va vous donner en grande primeur une nouvelle choc sur l'état du site web de Pascal Forget qui a non seulement son café dans la tasse Planet Oster, c'est pour ceux qui nous regardent sur YouTube ou sur Facebook pour en témoigner, mais Pascal, tu as aussi officiellement depuis quoi une affaire d'une minute ou deux ton site web chez Planet Oster qui est notre partenaire à une tasse de tech. Donc, c'est quand même pas rien.
Ben oui, pendant qu'on enregistrait, mon transfert se faisait. J'ai demandé l'aide des techniciens de Planet Oster qui ont fait ça de main de maître. J'ai donné mes identifiants, ils ont tout transféré mon site. Ça a pris quelques minutes. Vraiment, vraiment le fun. Ils m'ont guidé tout au long. Ils me tenaient au courant. Ils m'ont envoyé un lien pour valider que mon site était bien à mon goût. Et ils m'ont dit, ben, quand t'es prêt, on transfère. Et en quelques secondes plus tard, j'ai rafraîchi et mon site était maintenant hébergé par Planet Oster. Je vais pouvoir couper les autres services que j'utilisais. J'ai vraiment, vraiment hâte. J'ai pas eu à transférer, j'ai pas eu à installer WordPress, j'ai pas eu à faire. La gestion des courriels a été prise en compte, donc automatiquement, mon courriel continue d'être envoyé et reçu. J'utilise Gmail pour le faire. Et vraiment, vraiment, là, beau, beau, beau déménagement. Et j'ai réalisé que l'espace, j'utilisais AWS avant, les services d'Amazon, parce que c'était pas cher. J'avais aucun service. Donc, il fallait que tout, je me dépanne moi-même. Mm-hmm. Avec Planet Oster, ils peuvent me dépanner 24 heures sur 24. Si jamais il y a un pépin, si jamais le site n'est plus accessible, ils vont pouvoir 24 heures sur 24. À 2 heures du matin, je peux vérifier si mon site marche pas. J'ai rafraîchi. Je suis très satisfait. Là. Et ouais. Ce qu'on m'a donné comme espace et comme stockage est plus grand que ce que j'avais dans AWS. Alors, le site devrait être rafraîchi plus vite. Jetez un coup d'œil, pascalforgette.com. J'ai piqué ton thème, Alain, le thème que tu utilises.
Le thème de site web, ben oui, ben ça me dérange pas tellement. Tu parles d'Amazon, c'est drôle parce que Planet Oster, c'est un hébergeur québécois. Donc, tu dis, on encourage une économie, une entreprise locale. Mais l'affaire avec Planet Oster, c'est qu'ils sont super populaires en Europe. Parce que si on dit, bon, Amazon, on le sait, c'est un hébergeur, c'est une compagnie américaine, tout le kit, et on va encourager l'économie locale, mais Planet Oster n'est pas, comme tu sais, on dit, ah, c'est pas une petite entreprise du coin de la rue, là, c'est une entreprise établie, qui a beaucoup de clients à l'international et qui essaie de justement de se faire connaître ici au Québec parce que, n'est-ce pas, nul n'est prophète dans son pays. Mais nous, on l'a essayé et ça marche plutôt bien. Et cette espèce de solution, tu sais, adaptée aux besoins de chaque client, c'est quand même un gros plus dans l'hébergement parce qu'Amazon offre une solution, tu sais, très large pour tous les besoins, puis des fois on peut se perdre dans ces choses-là et justement soit payer trop pour rien ou pas assez pour pas. Puis finalement on n'a pas une solution adaptée. Ce qui est fun avec Planet Oster, c'est qu'ils adaptent la solution à vos besoins, comme les petits hébergeurs locaux le font souvent. Donc faut les remercier, les féliciter et on les salue en passant.
On les aime-tu? On les aime, je pense.
Écoute, c'est important Internet, Pascal. C'est ça comme une grande évidence, mais pas juste héberger son site web, parce qu'il faut ensuite pouvoir se rendre sur le site web, et pour se rendre, ça prend une connexion Internet rapide, et quand on le fait sans fil, ça nous prend un routeur Wi-Fi, et là, toi, tu as trouvé, écoute, mon lien est interminable, mais tu as trouvé un routeur Wi-Fi 7,
oui.
Ça nous amène dans le futur, parce que Wi-Fi 7, ça n'a même pas encore en marché officiellement, ça vient de commencer il y a quelques mois à peine.
C'est vraiment génial et je l'ai depuis quelques mois, fait que c'est sûr qu'au fil des mises à jour, ça s'est amélioré, c'est vraiment génial. J'ai le Deco BE95, un routeur Wi-Fi 7 en mèche, en filet. Montre, ceux qui me regardent sur
comme
YouTube.
Comme un gros cylindre blanc, ça. Là.
C'est un gros cylindre blanc. C'est plus le type le gros pot de fleurs que petite canette de boisson gazeuse.
Ouais.
C'est une grosse bête. Et tu remarques que le look, il y a une espèce de motif qui forme un cercle.
C'est dur à voir. Hein, le contraste blanc
c'est
sur blanc,
subtil, c'est pas c'est top. Blanc là, sur blanc. Ouais. Mais si on regarde le routeur, ça forme
c'est
un espèce de cercle.
Comme une forme de 7, finalement. C'est ça que tu es en train de nous dire.
Ah, oui, mais oui, et le Wi-Fi 7, c'est le nouveau standard de Wi-Fi qui permet jusqu'à 33, dans ce cas-ci de ce routeur-là, 33 gigabits par seconde de transfert. Il y a quatre bandes qui sont utilisées, la bande 2.4 gigahertz, la bande 5 gigahertz, celle qui a souvent des interférences avec son micro-ondes, et il rajoute deux bandes 6 gigahertz. Imaginez, la métaphore qu'on utilise souvent, c'est qu'imagine que tu n'as pas juste une petite route de campagne puis une autoroute, tu as une autoroute avec quatre voies. Et dans ces quatre voies-là, tu peux non seulement passer plus de voitures, mais tu as quatre voies. S'il y a de la congestion dans une voie, tu peux l'envoyer dans l'autre voie. Fait que le Wi-Fi 7, c'est un nouveau standard qui permet de gérer en temps réel jusqu'à 16 appareils en même temps. C'est vraiment, vraiment impressionnant. J'avais une connexion 1 gigabit qui était fournie par mon opérateur d'Internet. Et puis, j'avais 540 mégabits par seconde dans mon ordinateur. Parce que j'avais Wi-Fi 5, j'avais pas le dernier standard. Je suis passé au Wi-Fi 7, j'ai 1 gigabit partout. Mais évidemment, pour avoir le gigabit partout, il faut avoir les appareils compatibles.
Ça prend la carte dans l'ordinateur, ça prend le routeur, ça prend le modem, ça prend plein d'affaires.
Exactement. Il faut qu'on ait premièrement 1 gigabit, il faut qu'on ait 2 gigabits, il faut qu'on ait une connexion rapide directement. Ça n'augmentera pas la vitesse de transmission avec votre fournisseur, mais ça va permettre à l'intérieur du domicile. Et comme c'est un système de routeur en filet, en mèche, on peut déposer une borne en maillage. Merci. On peut glisser une borne, je sais pas moi, au deuxième étage. On peut en avoir une autre borne au premier. On peut les connecter sans fil ou avec fil. On peut même les connecter par fibre optique. Il y a un convertisseur intégré. Ben oui,
pourquoi pas?
Oui. Transmettre le système full vitesse, peu importe les obstacles, les murs, les interférences qu'il pourrait avoir. Et c'est un routeur déco de TP-Link. On assure qu'on a au moins 6 gigabits de performance dans un domicile de taille standard, là, sans avoir des murs épais et tout. On a sans fil au moins 6 gigabits de transmission.
Ça, c'est des films en 8K en simultané partout sur vos téléviseurs.
Oui, tout à fait. Et quand tu es à côté du routeur, tu as 10 gigabits. Wow. Sauf que si tu t'éloignes un peu, évidemment, la qualité de la transmission va toujours diminuer avec la distance. On monte les graphiques. Là, si tu as une petite vidéo, j'ai mis un article sur mon site là, avec les infos, mais c'est assez impressionnant. Là. J'étais sur mon balcon, 1 gigabit avec mon ordinateur. Beaucoup d'appareils récents ont une connexion Wi-Fi 7 ou sont compatibles. C'est rétro-compatible avec le Wi-Fi 6E et compagnie. Mm-hmm. Ça va vous permettre d'avoir la vitesse maximale. Vraiment, vraiment le fun. Écoute, si on utilise une borne modem ou routeur de son fournisseur, style fibre de Bell ou Helix de Vidéotron, c'est sûr qu'il va falloir transformer son routeur, désactiver les fonctions
en fil.
Ouais. Sans fil de son routeur. Ça, on va le mettre en mode bridge. C'est pas très compliqué. Ça peut faire peur aux gens. Je l'ai fait, ça prend quelques secondes. Quoi d'autre? Écoute, je suis très enthousiaste. Tu as l'application Déco qui contrôle ton routeur. On peut brancher une clé USB dedans, s'en servir comme serveur de fichiers. Ça, c'est assez classique sur les routeurs haut de gamme. L'endroit, option le fun, on a parlé de VPN. On peut, si on a un VPN, NordVPN ou Surfshark, on peut entrer ses identifiants de NordVPN ou Surfshark directement dans son routeur. Et donc, toute sa maison, tout son domicile va pouvoir accéder à du contenu géolocalisé ou être protégé, tout simplement.
Ben, c'est une protection en partant, oui. Puis c'est quelque chose qui était compliqué parce que la seule option avant, c'était fallait soi-même remettre un firmware sur un routeur de marque X. C'est un paquet de troubles, effectivement, donc de pouvoir le faire de façon intégrée.
Directement, à même
les protocoles OpenVPN là, qui sont des protocoles qu'on peut mettre le profil de VPN de son choix, que ce soit peu importe.
Mais c'est ça, dans ce cas-ci, j'ai vu NordVPN, Surfshark, ça se peut qu'il y ait d'autres fournisseurs qui soient offerts, évidemment, mais ça, c'est très, très le fun pour ceux qui veulent que toutes les connexions de son domicile soient protégées ou géolocalisées ailleurs. Là où ça fait mal, c'est que c'est une nouvelle technologie, c'est un routeur extrêmement puissant, extrêmement performant. Il coûte 1 200 $ américains.
Eh boy, j'avais pas vu le prix.
Autour de 1 650 canadiens. Quand j'ai vu le prix, moi-même, j'ai sursauté.
Eh ben, écoute, c'est un ordinateur personnel complet, là. C'est toute une solution qu'on peut acheter avec 1 600 $.
Oui. Donc, je trouve que c'est un achat pour un domicile, là. Si t'es tout seul à la maison, peut-être que tu peux profiter d'un routeur beaucoup, beaucoup moins coûteux Wi-Fi 6 un petit bout de temps. Mais si vous êtes à l'affût des nouvelles technologies, TP-Link aussi un modem, un routeur, excusez-moi, qui est seulement en une pièce, avec des antennes et tout, il n'est pas en filet, il n'est pas maillé, mais c'est quand même une grosse somme. J'ai vu qu'il est en solde à 1 400 $ sur Amazon, jete un coup d'œil.
Je sais pas ce que Rufus en dirait. Ça, si tu as un immeuble multilogement et tu veux inclure l'Internet, tu prends une grosse connexion de fibre optique, tu mets ça au bout et là, tu mets des petits des répéteurs, des bandes satellites à ce réseau en maillage qui, s'il part à 6 gigabits, tout le monde a une bonne connexion et là, tu découpes le prix en petits morceaux et tout le monde paye pas cher pour une bonne connexion. Oui. Donc ça, c'est une solution, effectivement. Vous avez une grande famille à la maison qui stream beaucoup dans toutes ses chambres. 3 enfants et plus, je peux vous en parler, ça congestionne rapidement une connexion de qualité moindre, donc ouais. Mais c'est vrai que c'est cher pour un routeur.
C'est très cher.
Déjà 200 $ à une époque, c'était beaucoup, là, 1 600, c'est vraiment
1 600, on est vraiment dans le gros prix. Les routeurs haut de gamme, faut pas oublier qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils vont mieux gérer les connexions multiples. Et comme tu le dis, si tu as 3 enfants, 2 téléphones, une tablette, un ordinateur, une télé, un gars qui fait du streaming, à un moment donné, ça fait beaucoup, puis le routeur va avoir de la difficulté à gérer tout ça. Pas le déco BE95. Mm-hmm. On peut avoir 16 connexions en temps réel gérées sans que ça transpire et sur 4 bandes différentes. Il y a même une bande qui peut être consacrée uniquement à la rediffusion du signal entre les bornes. Ah, et oui. Ça, c'est, je le répète à chaque fois qu'on parle de
routeur maillé. Ça coupe pas le débit total. Ouais.
C'est ça, on ne coupe plus. Avant, quand on utilisait un répéteur, on diminuait souvent de moitié, sinon plus, la vitesse de transmission. Dans ce cas-ci, on a la même vitesse de transmission sur toutes les bornes parce qu'un signal dédié, une bande passante qui est consacrée à la transmission du signal sans perte et sans
le débit et la latence aussi sont améliorés par ces technologies-là, mais effectivement, il faut y mettre
la latence aussi, oui.
Merci Pascal. Il y a eu une petite nouvelle cette semaine qui d'habitude, avant, dans le passé, était considérée un peu plus importante puisque Apple prenait le temps de faire une conférence et tout le kit. Mais là, on a présenté un peu plus par laconique, de façon laconique, une mise à jour du MacBook Air pour lui ajouter essentiellement le processeur M3, qui est la plus récente version des puces de ce qu'Apple appelle sa division Apple Silicon, qui est une architecture ARM sur laquelle Apple installe ses propres puces. Puce M3, donc, qui embarque dans un MacBook Air qui, soit dit en passant, est le portable le plus vendu au monde. Donc, c'est quand même pas un appareil négligeable en termes de volume. Et je dis pas seulement le Mac le plus vendu, parce que Apple nous fait toujours ce coup-là en disant « Ah, c'est le Mac le plus ou l'iPhone le plus le fun. » Puis bon, mais ça va aussi au-delà de ça. C'est un gros, gros vendeur partout dans le monde, cet appareil. Particulièrement chez nous, le MacBook Air, c'est un appareil qui est très, très portable. C'est le plus portable des Macs. Parce qu'il y a le MacBook Pro qui sont, le MacBook Pro est toujours un petit peu plus costaud, n'est-ce pas? Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute ce processeur qui est autrement plus puissant à bord du MacBook en version 13 pouces et 15 pouces. Et là, ce que j'ai essayé cette semaine, moi, c'est le 13 pouces qui, et là, c'est une question de goût, OK? Parce que dans le portable, il y a du 13, du 15 et du 17 pouces qui sont les formats. Et là, de temps en temps, on voit apparaître un 14 pouces en version un peu plus carrée, puis ainsi de suite. Mais dans le gros, là, les extrêmes, c'est de 13 à 17. Et dans ce créneau-là, moi, je trouve que 17, c'est très gros. Pour les gens qui veulent un portable qui ne bouge pas beaucoup, c'est correct, mais je trouve ça trop gros pour être vraiment mobile. Le 15, ça dépend des goûts, mais je trouve que dans le format 13 pouces, il y a quelque chose de le fun. Et le format, évidemment, 13 pouces, souvent, vient avec une fiche technique réduite parce qu'on dit, les gens qui achètent ça veulent surtout payer moins cher. Donc là, il y a plein de compromis. Et là, je vais vous dire, le MacBook Air 13 pouces avec processeur M3, écoute, c'est une voiture 4 cylindres turbo de 300 chevaux, compacte. Ça déjoue des appareils extrêmement puissants, mais en format très réduit. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment une belle combinaison. Le processeur M3, c'est le premier processeur chez Apple qui est construit avec l'architecture à 3 nanomètres, qui est extrêmement petite et qui est très fine et qui est en ce moment le dernier cri. Je pense que chez Intel, les nouveaux processeurs Core Ultra sont rendus là aussi, mais c'est tout nouveau. On a 8 cœurs de processeur, on a un processeur graphique à 10 cœurs qui s'ajoute à ça. On a évidemment, et là c'est ça qui est le fun, c'est qu'on a essayé de s'insérer dans la vague de l'intelligence artificielle générative chez Apple en disant on a aussi notre fameux processeur neural, notre Neural Engine à 16 cœurs qui apparaît dans le MacBook Air et qui permet de s'occuper des tâches d'intelligence artificielle pour en faire un ordinateur axé sur l'utilisation des applications d'intelligence artificielle. Il y en a plusieurs. La plupart sont en nuage, n'est-ce pas? Donc on y va par Internet. Mais si vous avez utilisez beaucoup l'intelligence artificielle d'OpenAI, de Meta, Llama, Mistral aussi, on peut downloader, on peut télécharger les modèles de langage sur son poste et les traiter et les utiliser localement en mode hors ligne. Et là, on parle de documents qui font une dizaine de gigaoctets qu'on doit utiliser dans une application spécifique. Et là, on peut avoir sa propre petite intelligence artificielle générative sur son poste de travail. Et ça tire du jus, ça commande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de travail du processeur. Et dans ce cas-ci, ben, on a réussi à faire un ordinateur qui gère plutôt bien cette demande-là. J'utilisais Mistral et j'ai utilisé Llama 2. Et j'ai utilisé aussi Stable Diffusion 2.1 qui, lui, permet de générer de l'image. sans connexion Internet, directement sur le MacBook Air à processeur M3. Et je vais vous dire, ça va super bien. On peut générer une image en 15 secondes de n'importe quoi. J'ai refait toute une galerie de logos pour mon entreprise. J'ai fait un paquet d'images par rapport sur la température dehors, entre autres, le printemps à Montréal. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai fait un truc assez le fun. Une attaque d'extraterrestres sur la Terre, des affaires la même. Puis ça prend... C'est, l'idée que vous avez, là, elle l'illustre. Ça se fait localement, pas besoin d'aller sur le cloud. Si jamais c'est quelque chose qui est important pour vous, ben cet appareil-là permet de le faire. Et tout ça, je l'ai fait gratuitement parce que les applications sont gratuites sur Mac et aussi sur Windows. Là. Mais l'appareil ici a la mécanique pour le faire, donc c'est quand même intéressant. Même si Apple n'a pas ses propres outils, là, il n'y a pas de copilote signé Apple, il n'y a pas de Gemini signé Apple, mais on peut les utiliser sur un Mac quand même. Donc c'est pas une limite à ce niveau-là. Le MacBook Air M3, on dit qu'il est 60% plus rapide que le MacBook Air avec M1, donc l'appareil d'il y a 2 ans. Je ne sais pas à quel point ça fait une grosse différence. Là, je ne pense pas que personne qui a une puce M1 va vouloir migrer à M3 tout de suite. C'est pas nécessaire. Mais ceux qui ont une puce Intel, on dit qu'il est 13 fois plus vite qu'un MacBook Air à puce Intel. ce que ça dit, en gros, c'est que cette architecture-là d'Apple vient d'une architecture mobile et les processeurs mobiles ont toujours été plus paresseux, plus lents que les processeurs faits pour ordinateur et encore plus faits pour desktop. Mais là, on voit plus vraiment cette barrière-là. Tout s'ouvre très vite, tout va très bien, tout est assez efficace pour qu'on n'ait pas à se casser la tête. La nouvelle architecture permet de connecter sur l'appareil 2 moniteurs externes de résolution 4K et ils vont fonctionner en parallèle sans problème à condition de refermer le couvercle et de pas utiliser l'écran du portable, ce qui est une drôle de petite nuance. Mais aussi, il faut les brancher un à côté de l'autre, ce qui monopolise les 2 ports USB parce que le MacBook n'a que 2 ports USB-C. Il y a aussi un connecteur MagSafe pour l'alimentation. Mais à partir de là, si vous avez des périphériques, il faut les attacher au moniteur et les utiliser autrement qu'en les branchant directement dans l'ordinateur, ce qui est une autre petite limite. Mais je connais pas grand monde qui utilise 2 moniteurs 4K live là avec un ordinateur comme ça. Donc, c'est une belle amélioration malgré tout. Il y a du Wi-Fi 6E, qui est la version la plus rapide du Wi-Fi 6, qui n'est pas du Wi-Fi 7, mais presque. On va y arriver un jour. Mais le Wi-Fi 6E pour un portable, c'est quand même pas mal. Il y a, tu sais, c'est sûr que là, avec le Wi-Fi 7, t'es en avance, je pense, sur tout le monde une couple d'années, Pascal.
Oui, non, mais je suis quand même émerveillé.
Le marché peut pas encore.
Ask me anything, j'ai un Wi-Fi 7.
Ben, c'est ça, exact. Et je vais vous dire un truc. Le système de son sur le MacBook Air est extrêmement bon. J'ai essayé des appareils dans les derniers mois, là, des PC avec Asus, avec d'autres marques, avec LG, HP, tout ça. Et on dit, OK, c'est un son Dolby Atmos, ci, puis ça, puis... Le son sonne comme un son portable. Tu sais, ça sonne comme cacane, genre mal. Tu sais, sur les Mac, et ils ont fait ça depuis 1 an ou 2. On a vraiment une sensation d'avoir un système de son, tu sais, un bon système de son. On peut écouter de la musique. On voyage beaucoup, les gens qui font des voyages d'affaires. On met le laptop sur la table dans la chambre d'hôtel et on parle la musique. Et on a comme un petit système de son avec soi qui fait une bonne sonorité, qui a un bon spectre sonore. Ça vaut la peine. Et c'est important parce que l'appareil coûte quand même 1 450 $ de base en 13 pouces. 1750 en 15 pouces. Et là, si on veut les équiper, on sort, c'est rien en bas de 2 000 $ si on veut quelque chose avec la bonne mémoire, tu sais, 16 gigaoctets de RAM, 1 téraoctet de stockage. Ben là, on est au-dessus des 2 000. Et c'est beaucoup d'argent. Quand on y pense, parce que pendant toute la décennie des années 2000, on essayait d'aller vers le laptop à 500 $, puis le laptop à 200 $, puis le laptop à 100 $, puis on est revenu complètement à l'envers, où là, maintenant, tout coûte 1 000, 2 000, 3 000 $. Et là, au moins, on a un bon portable, un bon système de divertissement. La version 15 pouces peut faire aussi pour les étudiants qui veulent pas avoir de télé, mais qui veulent regarder Netflix, ben c'est une façon de le faire. Évidemment, les plus jeunes, maintenant, font tout sur leur téléphone, mais pour les quelques rares qui aiment ça avoir un plus gros écran, ça fait une belle job aussi. Et là, le son est bon, la connexion est bonne, donc ça fait beau travail. Évidemment, je ris parce que je vais vous dire quelque chose, et c'est moi, ça me fait tellement rire. L'autonomie du MacBook Air est d'une bonne journée de 18 heures. Oui. Je sais pas si vous figurez que ça a aucun sens ce que je viens de dire, mais c'est ce qu'on dit chez Apple pour dire que l'autonomie est 18 heures quand on l'utilise comme du monde. Ça fait vraiment plus qu'une journée de travail. Si vous faites même, si vous utilisez de l'intelligence artificielle à fond de train, tout ça, vous allez en avoir en masse pour une journée de travail et même plus. Mais 18 heures, c'est pas une journée. On sait qu'une journée, c'est 24 heures. Fait que ça, on essaie de jouer là-dessus. On a fait ça avec l'Apple Watch aussi. Puis je sais pas pourquoi ils s'obstinent à dire ça. Ils ont juste besoin de dire 18 heures sur un laptop, là. C'est déjà, ça dépasse de loin la moyenne. Ils sont difficiles à trouver les portables Windows qui font 18 heures sans recharge. Et je vais aller plus loin que ça. Ils sont difficiles à trouver les portables Windows qu'on peut laisser dans son sac 2-3 jours et on le rallume et il y a encore de la batterie.
Oui.
Et ça, le MacBook Air le fait depuis des années, il le fait encore très bien. On peut le laisser, tu sais, c'est des gens qui travaillent mobile, laissent dans le sac, arrivent à la maison, passent la fin de semaine à faire autre chose, et le lundi matin, il y a encore de la batterie dans leur portable. Mmh. Et ça, c'est un élément, et je comprends pas pourquoi chez Intel et chez Microsoft, on n'a pas réglé ce problème-là déjà, parce que c'est un gros différenciateur à l'avantage des Mac, et c'est toujours un gros plus, effectivement. Apple continue de vendre le MacBook Air à puce M2 à prix moindre. Je pense qu'il est 1 300 $ canadiens. Il est 1 000 $ américains. J'ai pas vu le prix canadien, mais il est un petit peu moins cher. Donc, pour ceux qui cherchent un Mac un peu moins cher, il y a cette option-là. Un truc que j'ai pas dit, parce que ça aussi, c'est peut-être à la limite cocasse, c'est qu'Apple continue de pousser en disant « On peut faire du jeu vidéo de presque de console, mais comme PC sur Mac. » Évidemment, l'offre est pas mal moins abondante, mais on a, avec les nouveaux processeurs graphiques, la possibilité de faire du ray tracing, donc du lancer de rayons, et du mesh shading, de l'ombrage en maillage. On n'a pas encore officiellement traduit ces termes-là, mais on peut le faire par accélération matérielle, donc pas besoin de... ça va plus vite, en gros. Et c'est très instantané quand on le voit, quand il y a des démonstrations de situations d'environnement numérique immersif où on le fait avec et sans ray tracing, entre autres choses. Les ombrages, les reflets, les choses comme ça sur des surfaces lisses, ça ajoute une belle dimension. C'est purement esthétique, ça va pas changer vos vies, mais on est rendu à ce stade où ce genre d'ordinateur-là permet de le faire. Et je vais ajouter à ceci, puis ça va finir mon topo un peu. Évidemment, le processeur M3 n'a qu'une seule vitesse, et c'est la pédale au fond, même si on le débranche, même en mode mobile. On le voit souvent, le Mac le fait aussi, quand on le débranche, la luminosité de l'écran se réduit un peu. Mais souvent, en arrière-plan aussi, il y a plein d'affaires qui vont beaucoup moins vite tout d'un coup. Du côté de Windows, là, c'est toujours le cas. Les portables, on le sait, le processeur devient, le cadre graphique tombe sur la version plus minimale, et ainsi de suite. Puis ça réduit un petit peu l'expérience si on a besoin de faire des tâches de pointe. Ben, il n'y a pas de ça sur le MacBook Air. Ça va qu'au fond à tous les coups. Et tout ça se fait. Et j'ai un petit calculateur dans la barre de tâches quand je fais des calculs pour voir comment le processeur fonctionne, à quel point il tire du jus. Et quand j'utilisais une application qui s'appelle FreeChat pour utiliser Llama 2 pour tester l'intelligence artificielle générative, je voyais que ça roulait là, c'était du 500% de capacité de traitement là pendant quelques secondes, quelques dizaines de secondes, je veux dire, pour produire du contenu. Et aucun son, aucun ça chauffe pas, il y a pas de bruit de fan, de ventilateur, c'est vraiment... Il y a une raison pourquoi cet appareil-là est extrêmement populaire. C'est pas juste parce que c'est des gens qui l'achètent dans le bureau pour jouer sur Word. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec MacBook Air de nos jours, et c'est encore plus le cas aujourd'hui. Donc, belle machine, rendue plus performante, donc on peut pas s'en plaindre. Si ça coûtait 500 $ de moins, tout le monde serait bien content, bien sûr, mais sinon, c'est ça la vie en 2024.
T'as tellement une belle machine, et puis le fait qu'il n'y ait pas de ventilateur, moi, ça m'émerveille. Mm-hmm. J'utilise des Chromebooks qui sont pas des machines très gourmandes, et puis t'entends un ventilateur, ça me dérangeait. J'étais en train de travailler, j'ai dit, voyons, qu'est-ce que c'est ça, ce bruit-là? Je pensais que c'était quelque chose dans la rue. Je me rendais compte que c'était mon Chromebook qui faisait du bruit, et puis tu disais un...
Oui, puis quand le ventilateur, il passe parce que ça pousse de l'air chaud, donc il fait chaud, tu sais, dans ça, si tu le laisses dans ton sac, puis la fan en part, puis ça arrive des fois sur certains modèles.
Oui.
Il fait chaud dans ton sac.
Ça n'a pas de sens.
Ouais.
Et le MacBook,
ça draine la batterie. Ouais.
Autrement plus puissant, pas de ventilateur, ça fonctionne super bien.
Exact. Je vais juste le préciser parce que je ne l'ai pas fait, puis ça sera la dernière chose que je vais arrêter. Je disais la journée de 18 heures de batterie, j'ai fait 12 heures sur une charge, il me restait 20% à la fin de la journée, et même un petit peu plus. Donc, tu sais, quand on dit 18 heures, évidemment, c'est optimal parce que c'est ce qu'on annonce au fabricant, mais dans la vraie vie, c'est facilement plus que 12 heures, peut-être 15 heures même, donc gros plus. Ouais. Voilà.
Merci à nos partenaires. Plan Hub, TELUS, Planet Oster, Hello Darwin, merci de rendre ce podcast possible. Merci à Jovaco aussi, C23, le groupe Cogeco qui partage et distribue partout au Québec, dans le monde, le podcast. Merci au groupe Cogeco. Claude Hébert, la mise en onde, Jean-Christophe Ouellette qui font la mise en onde, et pascalforget.com, mon site tout nouveau, tout déménagé sur Planet Oster. N'hésitez pas à le visiter. Alain McKenna, on peut te lire un peu partout, y compris dans Le Devoir.
Oui.
N'hésitez pas à nous écrire, à nous commenter, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Pas dans la rue, s'il vous plaît.
Vous pouvez dire bonjour. Peut-être. Gardons ça poli.
Quelque chose d'amical et pas creepy.
Exactement. Et Pascal, je ne sais pas si tu l'as dit, j'ai pas entendu, pascalforget.com qui est maintenant sur des nouvelles mécaniques. Donc, vous pouvez lire les critiques plus détaillées des nombreux gadgets que Pascal essaie, même plus sur son site. Nous, on se dit au revoir parce que c'est la fin de cet épisode, et on se rappelle qu'évidemment, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre balado sur vos plateformes préférées. Faites-le parce que nos archives sont super bonnes, ça en fait quand même pas mal. Mais ce qui est à venir va être pas mal bon aussi et vous le recevrez directement sur votre appareil dès que ce sera publié. Mais entre-temps, faites attention à vous et on se reparle la semaine prochaine pour une autre Tasse de Tech. Salut tout le monde!
C'est 23.